Vous écoutez, on lit pour vous.
Vivre les pensionnats autochtones de l'intérieur. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 5 avril 2024 dans Urbania. Une cabane rustique en pleine forêt. Mon père argumente dehors avec un homme baraqué, tandis qu'un autre, envoyé par le gouvernement, fouille la baraque, faisant fi des supplications de ma mère. « Où est le garçon? »« J'ai seulement une fille, » plaide ma mère en panique. Le visiteur s'apprête à sortir avant de s'immobiliser dans le cadre de porte, de revenir sur ses pas et de se pencher sous la table où je me cache. Dans la scène suivante, je suis assis sur la banquette d'une voiture conduite par les deux hommes envoyés par l'État, flanqué d'un autre petit garçon en pleurs, en route vers un pensionnat. La scène donne froid dans le dos, encore plus lorsque l'on sait qu'elle a été vécue par environ 150 000 enfants autochtones à travers le pays entre 1830 et 1996. Oui, si récent que ça. Des enfants arrachés à leur famille afin de leur inculquer des bonnes valeurs catholiques et colonialistes. Ces établissements, répondant à une politique du gouvernement fédéral, tenue par des religieux, étaient éparpillés d'un océan à l'autre et les horreurs qui s'y sont déroulées commencent à peine à se frayer un chemin jusqu'à nos oreilles. C'est animé d'un devoir de mémoire que la société de production gatinoise Niche Média, pour toi Flora, le DEP, Vivas, a conçu William, une série tournée en réalité virtuelle et déclinée en 6 courts-métrages dans l'optique de faire vivre de l'intérieur ce sombre épisode de notre histoire. Le ton n'est pas accusateur, mais peut-on au moins s'approprier notre histoire collective comme il le faut? Demande la réalisatrice Sonia Bonspil-Boileau, qui a scénarisé le projet avec l'aide de survivants des pensionnats, dont Madeleine Basile, une Atikamek, qui joue le rôle de la grand-mère dans William. Comme Sonia est aussi mon amie dans la vraie vie, conflit d'intérêts, elle a gentiment accepté de passer me voir au bureau avec un casque de réalité virtuelle afin de me montrer l'aboutissement de ce projet amorcé en 2017, puis décalé jusqu'en 2022 à cause d'une certaine pandémie. On a fait le lancement officiel la semaine dernière à l'Université du Québec en Outaouais, la première institution à avoir acheté la licence. Les demandes commencent à entrer, mais là où on sent une hésitation, c'est dans les écoles secondaires, déplore Sonia, qui entend intensifier ses efforts avec son équipe pour percer à l'intérieur des polyvalentes. Déjà qu'on part de loin dans l'enseignement des cultures autochtones au secondaire, sinon pour quelques notions de base concentrées en quatrième secondaire, souligne Sonia. Chose par ailleurs confirmée par mes enfants. Selon eux, on passe rapidement en revue les différentes nations autochtones et leurs cultures, en plus de décrire sommairement leurs relations avec les Blancs. Une version plus rose-bonbon que l'original. Celle-ci, marquée par la violence, les inégalités et une volonté systémique d'assimiler les Autochtones. Sinon, on s'en remet à l'initiative des enseignants-enseignantes. Celle de ma fille, par exemple, leur a fait écouter la série « Pour toi, Flora ». En général, le Québec n'aime pas se voir comme un colonisateur envers les Premières Nations. Mais si on enseignait ce qui s'est passé dans les pensionnats, on équiperait une nouvelle génération à ne pas répéter de telles horreurs, estime la cinéaste Kanyenkehaka Mohawk, dont le grand-père a grandi dans un pensionnat à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Et même si Sonia constate un certain engouement à l'heure actuelle pour la culture autochtone, on ne peut pas gommer l'histoire non plus, ni jouer à l'autruche. Je suis à 100% en faveur de projets susceptibles de faire rayonner positivement la communauté. Mais les inégalités perdurent et les blessures des pensionnats sont encore vives. La guérison est un long chemin. Le bon médium pour comprendre. C'est Jason Brennan, producteur chez Niche Media et conjoint de Sonia, qui a eu l'idée de développer la série en réalité virtuelle. Il a vécu une expérience immersive du genre dans un camp de réfugiés syriens qui l'a bouleversé. Il s'est dit que c'était la chose à faire pour faire comprendre l'ampleur des dommages que les pensionnaires ont subis, raconte Sonia, qui commençait à ce moment l'écriture de sa série « Pour toi, Flora », dans laquelle les pensionnats servent de trame narrative. J'ai compris que les bouts où l'on montre la violence et les sévices n'étaient pas les plus durs à encaisser. C'était ceux où l'on montrait la solitude et les enfants arrachés de leur foyer, la destruction du noyau familial, analyse Sonia. Elle a même poussé le réalisme jusqu'à inventer de toutes pièces une langue pour montrer à quel point ces enfants déracinés se retrouvaient du jour au lendemain dans un environnement inconnu où l'on s'exprimait dans une langue tout aussi inconnue. Un des moments les plus tristes, c'est dans l'épisode du retour, lorsque la langue des parents devient étrangère à l'enfant qui retourne chez lui après 10 ans de pensionnat. Note Sonia. Pour donner vie aux 6 épisodes d'environ 5 minutes chacun, la réalisatrice s'est entourée de comédiens, dont Quena Boivin, une Atikamek personnifiant la mère de Flora dans « Pour toi, Flora ». En plus de décors créés sur les lieux de tournage situés à Rigaud et Ottawa. C'est une boîte de réalité virtuelle montréalaise qui a ajouté son expertise pour rendre l'immersion crédible. Un défi technique inusité pour Sonia Bonspil-Boileau et sa boîte de prod. Tu dois le prévoir comme une pièce de théâtre. On fait tout en une prise, comme une chorégraphie, où ce sont les personnages qui vont vers toi en espérant que tu regardes dans leur direction au bon moment, explique Sonia. Pour avoir testé 2 épisodes, l'expérience est troublante de réalisme et on vit les situations à travers les yeux du jeune William, dont on suit la trajectoire entre sa communauté et le pensionnat. Le prêtre, Carole Baudry, qui nous toise avec froideur tout au long de l'expérience, suffit à nous glacer le sang, à l'instar des religieuses qui manifestent à notre égard un dédain évident. Le son du rasoir dans nos cheveux et même le flash d'une lumière qu'utilise un médecin en train de nous ausculter contribuent aussi à insuffler une dose de véracité. La réalité virtuelle constitue un médium qui booste l'empathie au maximum, note Sonia. Les épisodes se découpent ainsi. La vie en famille, le départ crève-cœur, l'arrivée au pensionnat, le dortoir, la salle de classe et le retour dans la communauté. Côté logistique, les écoles intéressées devraient être munies d'au moins un casque de réalité virtuelle. Une version YouTube filmée en 360 degrés existe aussi, mais ne rend pas justice à l'expérience. On vise l'achat d'une 15aine de casques pour les louer, ajoute la réalisatrice. En plus de l'outil virtuel, le projet s'accompagne d'un manuel pédagogique adapté aux réalités autochtones de chaque province. Pour le reste, seul l'avenir dira si le milieu scolaire est prêt à présenter aux élèves ce pan moins glorieux de notre histoire. Parce qu'avant de s'ouvrir à la culture autochtone, c'est important de savoir à quel point on a d'abord tenté de l'étouffer. C'était « Vivre les pensionnats autochtones de l'intérieur », un texte d'Hugo Meunier, paru le 5 avril 2024 dans Urbania.
Faire profiter de son héritage pendant son vivant. Un texte de Léopold Picot paru le 9 avril 2024 dans Urbania. J'ai rarement réfléchi à l'héritage. Il faut dire qu'à 26 ans, on a d'autres choses à penser. Aimer son boulot, trouver un condo, entretenir ses amitiés, etc. C'est déjà pas mal quand on entre dans la vie adulte. Pour moi, le legs, ça arrivera le plus tard possible. J'espère. The classical way, soit quand j'aurai plus de 60 ans et que mes parents iront voir si le gars barbu existe vraiment. En plus, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours aidé, financièrement pour mes études et moralement pour ma santé mentale. Et ça, c'est déjà un héritage à part entière. Pourtant, beaucoup de personnes vont plus loin que mes parents et décident de gérer leur héritage bien avant de décéder. Ça peut être pour éviter de payer trop de taxes, parce que quand quelqu'un décède, la loi de l'impôt sur le revenu prévoit que le gain en capital sur certains actifs du défunt est assujetti à l'impôt. Pour s'épargner quelques chicanes sur la répartition, pour aider les petits-enfants quand ils en ont le plus besoin, ou même pour éviter de laisser cette charge mentale à leurs proches dans un moment de deuil. De plus, notre espérance de vie qui rallonge rend la volonté de léguer de son vivant encore plus forte, et c'est pourquoi on peut donc être confronté à l'héritage plus tôt que prévu. Autant vous dire, il vaut mieux s'y préparer que de faire comme si ça n'allait jamais arriver. L'héritage surprise. Léa, nom fictif, 29 ans, vit à Montréal et travaille dans une entreprise médiatique et de communication. Elle n'a pas eu le temps de se préparer. À 21 ans, elle a reçu 60 000 $ d'un grand-oncle. Personne ne s'attendait à le recevoir. Il a décidé de sauter des générations, celles de ses frères et sœurs, et celles de leurs enfants et de ses neveux et nièces, parce qu'il considérait que ceux qui avaient besoin de cet argent-là étaient les petits-enfants, même ceux qui n'étaient pas directement les siens, décrit la jeune femme. L'avantage, c'est que ça a coupé court à toute chicane. Ce qui a enlevé de la difficulté, c'est que comme personne ne s'attendait à recevoir cet argent-là, personne n'a eu l'impression de le perdre, décrit Léa en souriant, avant d'ajouter « Je pense que ma famille était consciente que ça allait faire une grande différence dans nos vies. » En effet, pour ses sœurs et une de ses cousines, ça a changé beaucoup de choses. Ma sœur est allée étudier à Ottawa en droit. Là-bas, les loyers sont encore plus chers. Ma grande sœur a pu acheter sa première maison et j'ai une cousine qui a pu retourner aux études, chose qu'elle n'aurait pas faite si elle n'avait pas eu cette somme. D'après Léa, c'est exactement pour ce genre de situation que son grand-oncle avait fait ce choix. De son côté, la jeune femme laisse fructifier la somme pour pouvoir un jour acheter un condo à Montréal, en évitant de trop en parler. « Malgré ça, je ne suis pas capable d'acheter avec mon chum alors qu'on a une job à temps plein. Donc, quand je regarde mes amis autour de moi, je me sens mal d'en parler. » Parce que leur situation est encore pire. Déléguer petit à petit. Julie, 29 ans, habite aussi à Montréal et travaille dans le domaine des communications. Sa famille a préféré anticiper l'héritage plutôt que de tout faire au dernier moment, soit au décès de quelqu'un. C'est quelque chose qui inquiète énormément ma mère, parce que quand ma grand-mère est morte, tout a été vraiment compliqué. Elle a eu plein de frais de succession. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas pu garder, qu'elle a dû vendre. C'était déchirant pour elle, particulièrement la vente de la maison de famille, se rappelle-t-elle. Loin d'être tabou, le sujet de l'héritage a donc été abordé assez tôt par les parents de Julie, qui ont décidé de lui léguer la maison familiale peu de temps après ses 28 ans. Mes deux frères et moi, on n'est pas directement propriétaires, dans le sens où je n'ai pas l'usufruit de la maison, et ce sont mes parents qui paient encore les taxes. Mais ma mère voulait nous la léguer avant ses 60 ans, parce que ça nous évitait d'avoir à payer des frais de succession, raconte Julie, qui regrette que trop de gens ne soient pas au courant des frais que peuvent engendrer les héritages. Ses parents la soutiennent beaucoup, que ce soit pour ses études ou ses investissements. Une manière pour eux de commencer à léguer progressivement et d'éviter toute complication administrative tout en aidant leurs enfants avant qu'ils ne soient plus là. Si j'ai des enfants un jour, c'est sans doute quelque chose que je ferai, conclut-elle. L'héritage, non merci. L'héritage, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. C'est aussi accepter une filiation et toutes les responsabilités financières qui viennent avec. Siam, 25 ans, ne parle plus à son père et ne souhaite pas avoir un legs à sa mort. Déjà, je ne suis même pas sûr que j'aurai un héritage positif et non des dettes. Dans tous les cas, même s'il avait acheté une maison au cours de sa vie, je ne souhaite pas en hériter parce que je ne veux pas de lien avec lui. Et c'est pour ça aussi que je veux commencer les démarches avant son décès, précise la jeune femme, qui travaille dans le domaine des médias et habite dans le sud de la France. Au Québec, il est techniquement impossible d'hériter de dettes grâce à la liquidation de succession. En règle générale, si dettes il y a, elles seront toutes retranchées de l'héritage, ce qui peut toutefois conduire à l'absence d'héritage. Rejeter un héritage est en revanche tout à fait possible. Il faut le faire au plus tard 6 mois après la notification d'héritage, et les démarches se font devant un notaire. Mais si elles ne sont pas entreprises, vous serez considéré comme héritier. Le problème, c'est qu'en matière d'héritage, quand on est vivant, il y a toujours plus important à faire, concède Siam. C'est sur ma to-do list depuis mes 17 ans, mais je ne l'ai toujours pas fait. C'est du temps et de l'argent. Passer chez le notaire, ça peut venir avec une facture salée, surtout quand, comme Siam, on veut aller plus loin que la question de l'héritage. Elle veut annuler la filiation, ce qui voudrait dire que son paternel ne serait même plus considéré comme son père biologique, annulant ainsi de facto son statut d'héritière. Hériter au décès, ça se fait encore? Chaque famille a sa propre manière de gérer le legs. Que ce soit pour léguer, pour hériter ou pour rejeter, l'héritage devrait être discuté dans toutes les familles pour éviter les complications comme celles qu'a pu connaître la mère de Julie. Par contre, parler d'héritage, ce n'est pas toujours facile. Il y a la peur de se faire juger, la peur de se sentir privilégié. Mais si vous amenez le sujet en démontrant un simple intérêt d'anticiper la chose et d'éviter les mauvaises surprises, vous allez certainement épargner votre santé mentale et celle de vos proches sur le long terme. La chose la plus importante à retenir, c'est de faire ça devant un ou une notaire. Même s'il est possible de rédiger un testament par vous-même, le risque de laisser des zones grises et ouvertes aux interprétations et de provoquer des chicanes peut justifier le fait de dépenser pour obtenir de l'aide. Dans tous les cas, bonne chance. C'était « Faire profiter de son héritage pendant son vivant », un texte de Léopold de Picot paru le 9 avril 2024 dans Urbania.
Une visite au musée, la solution pour vieillir en beauté? Un texte d'Emma Dupuis de l'Université de Montréal, paru dans le magazine Bel Âge. Les effets des activités artistiques et culturelles sur le corps et l'esprit des individus préoccupent bon nombre de chercheurs. Une neuroscientifique fait le point. Nous sommes samedi matin. Tasse de café à la main, à peine réveillée, votre regard se perd vers l'horizon. Il pleut. Vous venez de vous décider. Cet après-midi, pour vous, ce sera le musée. Et si, sans le savoir, vous veniez de prendre une bonne décision pour votre santé? C'est l'hypothèse qu'a émise l'Association des médecins francophones du Canada en 2018 en lançant le programme de prescription muséale en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Aujourd'hui terminé, ce projet a permis à des milliers de patients de recevoir une ordonnance de leur médecin pour une visite au musée, en solo ou accompagné. La prescription visait à favoriser le rétablissement et le bien-être de patients pouvant, par exemple, être atteints de maladies chroniques, hypertension, diabète, neurologiques ou encore de troubles cognitifs ou de santé mentale. Le choix de prescrire était laissé à la discrétion du médecin. 5 ans plus tard, cette initiative pionnière a fait des petits et nous voyons aujourd'hui fleurir de plus en plus d'activités muséales bien-être allant du muséo-yoga aux méditations guidées avec les œuvres d'art, en passant par la pratique de la contemplation lente ou slow looking. Les offres ne manquent pas et font grandir en chacun la même conviction « l'art nous fait du bien ». Au-delà de la première impression, ces initiatives ont récemment fait la manchette dans des médias nationaux des deux bords de l'Atlantique, tant en France qu'au Canada, et gagnent en visibilité auprès du grand public. Comme une conséquence de cette popularité, on peut lire de plus en plus d'affirmations parlant de la visite au musée comme un antistress puissant, un remède miracle contre le stress ou encore comme ayant des effets incroyables. Enthousiasmant. En bonne neuroscientifique, je ne peux toutefois m'empêcher de me demander pourquoi, au vu des extraordinaires effets relaxants annoncés, les foules ne se bousculent pas aux portes de nos musées quotidiennement. Autant de raisons pour aller jeter un œil aux rapports et études scientifiques récemment publiés sur le sujet. L'art fait du bien, de l'intuition à l'observation. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé publiait un épais rapport colligeant des éléments de preuve concernant le rôle des activités artistiques et culturelles pour favoriser la santé et le bien-être. De façon remarquable, les auteurs de ce rapport tentent de s'affranchir d'une vision unifiée des bienfaits de l'art qui, tel un remède de grand-mère, constituerait une solution universelle aux problèmes de santé. À la place, ceux-ci encouragent de nouvelles approches plus précises et rigoureuses, orientées sur l'observation des réponses psychologiques, physiologiques ou encore comportementales induites par certaines composantes spécifiques de l'activité artistique. Engagement esthétique, stimulation sensorielle, activité physique. Acteur ou spectateur? La spécificité de la visite au musée est d'être une activité artistique dite réceptive, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de produire de l'art, peindre, dessiner, composer. Elle présente toutefois l'avantage d'être accessible et déjà bien ancrée dans nos habitudes collectives, ce qui en fait une bonne candidate pour la prévention en santé. La question est alors de savoir s'il suffit d'être exposé à de l'art pour bénéficier de ses bienfaits. Autrement dit, est-ce que le simple fait d'être en contact avec de l'art a des effets spécifiques? Des consommateurs de culture en meilleure santé. Des recherches ont été conduites en Angleterre sur des échantillons de plusieurs milliers d'individus dont on a suivi les indicateurs de santé à long terme et à qui on a demandé pendant 10 ans de rapporter leurs habitudes en termes d'activités culturelles et artistiques. Ces travaux montrent que les individus fréquentant régulièrement, tous les 2, 3 mois et plus, les lieux de culture, théâtre, opéra, musée, galerie, présentent un risque de démence et de dépression divisé par 2 et un risque de développer un syndrome de fragilité gériatrique, phénomène de déclin de la santé lié au vieillissement et associé à une perte de l'indépendance fonctionnelle, réduit d'environ 40%. Être exposé à l'art permettrait donc de vieillir en meilleure santé? Peut-être, mais il reste à confirmer que l'engagement culturel est la cause de l'amélioration des indicateurs de santé observés dans ces travaux. Pour cela, des études de cohorte et essais cliniques contrôlés randomisés sont nécessaires. Or, ce type d'étude est encore rare dans le domaine. À la recherche des principes actifs. Par ailleurs, il reste une question et de taille, celle du pourquoi. Pourquoi l'art, et notamment l'art visuel, me ferait du bien? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps lorsque j'entre en contact avec une œuvre? Comment ce contact me transforme et contribue à me maintenir en meilleure santé, si tel est le cas? C'est la question que se sont posées Michaela Law, chercheuse en psychologie à l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, et ses collaborateurs en 2021. Ces chercheuses et chercheurs ont exploré la littérature scientifique en quête d'études disponibles adressant la réponse physiologique aux arts visuels et son effet sur le stress rapporté par l'individu. Certaines des études répertoriées dans ce travail montrent que le contact avec une œuvre est à même de diminuer la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le cortisol sécrété dans la salive. De telles modifications traduisent une diminution de l'état de tension du corps, que l'on appelle aussi le stress. Un changement qui semble perçu par l'individu et se traduit par une diminution du stress dont il témoigne après l'exposition. D'autres études, à l'inverse, n'observent rien. Ainsi, si le contact avec l'art visuel est susceptible de provoquer la détente physique et psychologique du spectateur, celui-ci pourrait ne pas constituer une condition suffisante. Cette conclusion nous invite donc à nuancer le discours et à approfondir la réflexion sur ce qui se passe au moment de la rencontre avec l'œuvre qui conditionne ses effets sur le psychisme de l'individu. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Vous irez au musée, c'est décidé. Il est probable que cette décision soit bonne pour votre santé. Il est également probable que cela dépende du musée et de la façon dont vous visiterez. Une chose est certaine, par contre, c'est que vous augmenterez fortement vos chances de passer une agréable journée. C'était Une visite au musée, la solution pour vieillir en beauté? Un texte d'Emma Dupuis de l'Université de Montréal, paru dans le magazine Bel Âge.